Lizzie présente Mille femmes blanches, les carnets de May Dodd, de Jim Fergus, lu par Maud Rudigoz, avec la participation d'Arnaud Romain. Premier carnet. Un train vers la gloire. Franchement, vu la façon dont j'ai été traitée par les gens dits civilisés, il me tarde finalement d'aller vivre chez les sauvages. Extrait des journaux intimes de May Dodd. La note suivante, sans date, apparaît au tout début du premier carnet de May Dodd. Au cas où ils ne me reverraient jamais, moi, leur mère qui les aime, je rédige ce journal afin de conserver mon témoignage pour mes très chers enfants Hortense et William, qu'ils puissent tout savoir de mon internement injuste, de mon évasion hors de l'enfer et de ce que ces pages encore blanches leur révéleront un jour sur mon avenir. 23 mars 1875. C'est aujourd'hui mon anniversaire et j'ai reçu le plus beau des cadeaux, la liberté. Je griffonne maladroitement ces premières lignes à bord d'un train de la Union Pacific, parti ce matin à 6h35 de la gare de Chicago, vers l'ouest et le Nebraska. On nous a dit que le voyage allait durer 14 jours, avec un changement de train à Omaha. Si notre destination finale est sciemment gardée secrète, j'ai surpris les conversations des soldats de l'escorte. Les militaires sous-estiment l'acuité d'une oreille féminine. Et j'ai appris que le train nous emmène tout d'abord à Fort Sidney, d'où nous serons ensuite convoyés en chariot vers le Wyoming, à Fort Laramie, et finalement à Camp Robinson, dans le Nebraska. La vie est si imprévisible. Quelle sensation étrange de me trouver dans ce train en route pour un long voyage et de contempler la ville qui s'éloigne. Je me suis assise dans le sens contraire de la marche pour garder avec moi une image fuyante de Chicago, son épais nuage de fumée charbonneuse qui, à la manière d'un parasol géant, s'étend au-dessus des rives du lac Michigan. Toute grouillante et noire, la cité vient une dernière fois de défiler sous mes yeux. Son éclat et ses bruits m'ont tant manqué dans le silence et l'obscurité de la réclusion. Et j'ai maintenant l'impression d'être un personnage de théâtre, arraché au monde réel et voué à un terrible rôle que l'auteur n'aurait pas encore écrit. Comme j'envie ces gens que j'aperçois depuis la fenêtre du train, pressés de retrouver la sécurité d'un labeur quotidien, tandis qu'on nous emporte, déjà captifs d'un destin et d'un monde inconnu. Nous longeons maintenant les enchevêtrements de petites bicoques qui ont poussé partout après le grand incendie de 1871. Avec leurs charpentes grossières assemblées à la hâte, vacillant sous le vent comme un château de cartes, elles forment une clôture improbable autour de Chicago, désireuse, semble-t-il, de contenir l'expansion constante de la métropole. Sales et en haillons, des enfants qui jouent dans les cours boueuses s'arrêtent pour nous regarder passer, comme s'ils voyaient en nous les créatures d'un autre monde. Mes propres enfants me manquent terriblement. Je ne sais ce que je donnerais pour les voir une dernière fois et les serrer contre moi. Derrière ma fenêtre, je fais un signe de la main à ce tout petit garçon qui, malgré ses cheveux blonds et crasseux, me rappelle mon cher William. Les boucles grasses de celui-là bordent un visage crotté et des yeux intensément bleus. Hésitant, il lève à mon attention une minuscule menotte et me rend mon salut, ou plutôt mes adieux. Je le regarde devenir de plus en plus petit, tandis que nous quittons les derniers avant-postes de la misère civilisée. Le soleil d'Orient illumine la ville dont les contours bientôt se fondent dans le lointain. Mes yeux restent rivés sur elle aussi longtemps que mon regard le peut. Alors seulement, je trouve assez de courage pour changer de siège, tourner le dos à un passé sombre et agité, pour faire face à un avenir terrifiant, incertain. J'ai le souffle coupé devant le spectacle des terres immenses qui s'ouvrent devant nous, de l'indescriptible étendue de la vaste prairie solitaire. J'en reste étourdie, défaillante, mes poumons me donnent l'impression de s'être soudain vidée, et moi, de m'être jetée à la lisière du monde, précipitée la tête la première dans le vide infini. Peut-être que... Oui, c'est peut-être bien ce qui m'arrive. Mais, Seigneur bien-aimé, veuillez me pardonner. Jamais plus je n'oserai formuler une plainte. Toujours je me rappellerai le bonheur d'être libre et les prières, aujourd'hui exaucées, que je vous ai adressées chaque jour de mon internement. La terreur qu'inspire à mon cœur cette aventure nouvelle semble bien insignifiante comparée à l'idée de poursuivre mon existence de détenue dans cette immonde prison. Car c'était une prison, bien plus qu'un hôpital. Et nous, des prisonnières bien plus que des patientes. Le traitement que l'on nous y administrait se résumait à la captivité sur fond de barreaux d'acier. Semblables aux animaux d'un zoo, nous étions ignorés par ces médecins sans âme, mais torturés, injuriés, agressés par leurs sadiques gardiens. Ma définition de l'asile d'aliénés, le lieu où l'on crée les fous. Pour quelle raison suis-je ici ? Ai-je demandé au docteur Kaiser lors de sa première visite, une bonne quinzaine de jours après mon admission.
Enfin, voyons, pour vos débauches sexuelles,
répondit-il, comme réellement surpris que je lui fasse l'affront de poser une telle question.
Mais je ne suis pas une débauchée. Je suis amoureuse d'un homme, protestai-je avant de lui parler de Harry.
Ma famille m'a placée ici parce que je l'ai quittée pour vivre hors des liens du mariage avec un homme qu'elle considérait d'un rang inférieur au mien. C'est la seule et unique raison. Comme ils n'ont pas réussi à me convaincre de le quitter, ils m'ont arrachée à lui et de mes enfants. Vous ne voyez donc pas, docteur, que je ne suis pas plus folle que vous ? Il fronça les sourcils et, hochant la tête d'un air de Sainte-Nitouche effarouchée, griffonna quelques mots sur son carnet de notes. « Ah ! Dit-il. Je vois. Vous pensez être victime d'une conspiration familiale. » Alors il se leva, partit, et je ne le revis plus pendant près de 6 mois. Au cours de cette période, je dus subir d'atroces traitements prescrits par le bon docteur pour me guérir de ma maladie. Ceci consistait en des injections quotidiennes d'eau bouillante dans le vagin, destinée d'évidence à calmer mon énorme appétit sexuel. Je restais confinée au lit des semaines entières, avec l'interdiction de sympathiser avec les autres patients, de lire, d'écrire des lettres et de m'adonner à quelque loisir que ce soit. Comme si je n'existais pas, les infirmières et les surveillants ne m'adressaient pas la parole. Je dus en plus endurer l'humiliation d'utiliser un bassin contre mon gré, bien que je n'eus absolument rien qui m'y obligeât physiquement. Si je protestais, ou si une infirmière me surprenait hors du lit, on m'y attachait pour le reste du jour et de la nuit. C'est lors de ce confinement que je perdis réellement la raison. Comme si la torture que l'on m'infligeait chaque jour ne suffisait pas, l'isolation complète et l'inaction auxquelles j'étais astreinte étaient insupportables. Je rêvais d'air frais, d'exercices physiques et des promenades sur les rives du lac Michigan, comme autrefois. À mes risques et périls, je quittais mon lit avant l'aube pour monter sur une chaise et, me haussant sur la pointe des pieds afin que mes yeux s'élèvent jusqu'aux barreaux de fer, je m'efforçais de surprendre un rayon de soleil ou un carré de pelouse verte derrière la fenêtre aux étroits volets. Je pleurais amèrement sur mon sort, mais combattais mes larmes jusqu'à les faire disparaître. Car j'avais également appris que je ne devais offrir ce spectacle à personne. Faute de quoi on m'aurait déclaré hystérique ou mélancolique en sus de ce premier diagnostic absurde de débauche. Cela se serait traduit par de nouvelles tortures.